fait que nous sommes tous prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Vous êtes d'accord que Jésus-Christ est parfait, n'est-ce pas? Hein? Il est parfait à 100%. Et la Bible dit que vous êtes prédestinés à être conformes à l'image de Jésus qui est parfait. C'est-à-dire que vous êtes prédestinés à devenir parfaits, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous êtes prédestinés par Dieu de devenir parfaits, conformes à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand les gens voient Jésus, et quand ils regardent Jésus et quand ils te regardent, ils ne devraient pas être capables de vraiment distinguer grandes choses. Hein? La seule différence, c'est que c'est lui qui est la tête et nous sommes le corps. Mais nous sommes en lui, il est en nous, nous sommes une seule plante avec Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce matin, on va terminer une série qu'on a commencée il y a déjà 8 semaines sur comment trouver du sens dans un monde insensé. Et c'est une série que j'ai bien aimée. Ça m'a vraiment aidé moi-même en prêchant et en enseignant ces vérités. On a appris des choses bien importantes sur comment vivre pour Dieu. Et on va lire dans notre texte principal, le texte qu'on a pris pendant 8 semaines, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 15. Nous allons lire les choses dans la parole qui vont nous aider encore ce matin. Et ça parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle, combien de vous êtes ressuscités à une vie nouvelle? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle, ce n'est pas une chose qui va avoir lieu, mais c'est une chose qui est déjà passée. Si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes déjà ressuscité en lui et vous êtes déjà assis en lui à la droite du Père dans les lieux célestes. Spirituellement et légalement, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Afin que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. Tout le monde dit une petite vie égoïste. La vie égoïste est une vie petite qui ne fait pas grande chose. Quand on vit pour soi-même, on ne fait pas grande chose dans la vie. On n'a pas de sens à notre vie. Notre vie est limitée quand nous vivons pour nous-mêmes. Mais ne continuons pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Donc, on voit encore que dans la vie, on a 2 choix. Soit on peut vivre pour soi-même une petite vie égoïste qui ne fait pas grand-chose, ou on peut vivre pour Jésus et on peut faire des grandes choses, les exploits pour lui. On peut porter beaucoup de fruits. On peut amener beaucoup de gens avec nous au ciel. On peut faire des choses qui vont avoir un impact sur notre société, dans notre monde et qui vont vraiment faire une différence pour l'éternité. Amen. Le choix est à nous. Soit on vit pour soi-même, ou soit on vit pour Dieu. Amen. Et moi, j'aimerais mieux vivre pour Jésus, et je sais que le cas pour vous aussi. C'est pourquoi vous avez bravé la neige aujourd'hui et vous êtes venu quand même. Hein? Et laisse-moi vous dire une chose. Dieu est bon. Dieu a un plan pour votre vie et son plan est infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. La petite vie égoïste que vous pouvez mener, c'est absolument rien comparé à la grande vie merveilleuse que Dieu a planifiée. Les projets qu'il a formés sur vous sont infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Amen. On se regarde des fois et on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand chose, mais avec Dieu, on peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Il y a des gens ici, vous êtes destinés, prédestinés à faire des choses pour le royaume de Dieu qui vont changer les nations. Moi, je suis convaincu de cela. Il y a des personnes, vous êtes assis ce matin dans cette église et votre vie personnelle est destinée à changer les nations entières. Amen. Est-ce que cela veut dire que vous êtes appelé à aller en Outre-mer comme missionnaire? Peut-être oui. J'ai aucun doute qu'il y a des personnes ici qui sont supposées un jour d'aller en Outre-mer et de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ dans les autres pays. Mais il y a d'autres personnes qui sont peut-être pas appelées à aller eux-mêmes, mais ils sont appelés à prier et de donner leur temps dans la prière. Amen. Et quand ils donnent leur temps dans la prière, ça va faire un effet dans les lieux célestes qui vont finalement produire des résultats ici sur la terre. Il y a des personnes qui vont être au ciel grâce à vos prières. Amen. Au lieu de brûler pour éternité à l'enfer, ils vont être rendus dans la présence de Dieu pour éternité, et c'est grâce à vos prières. Ça, c'est une grande différence, n'est-ce pas? La petite vie égoïste dit « j'ai pas le temps de prier », mais une vie qui est vécue pour Jésus dit « je vais prendre le temps pour prier ». Amen. Il y a d'autres ici qui vous pouvez faire un impact dans la francophonie et au-delà, peut-être pas avec juste avec votre temps, mais avec votre trésor aussi. Il y a des gens ici qui vont jamais prendre un avion pour aller en Outre-mer, mais qui vont pouvoir, à cause de leur travail et parce qu'ils vont avoir du succès au travail, parce qu'ils vont gagner un bon salaire, ils vont pouvoir donner, sommer pour acheter un billet d'avion pour quelqu'un d'autre qui est appelé. Amen. Donc, quelques-uns vont changer les pays avec leur temps, d'autres avec leur trésor. Il y a d'autres personnes qui vont changer les pays avec leur talent. Ils vont peut-être avoir des talents pour travailler sur les sites web, pour travailler pour écrire des livres, mettre les choses en écrit, pour pouvoir envoyer les choses en Outre-mer. Et les nations vont être changées à travers leur talent. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser leur temple, leur corps physique. Ils vont dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, c'est moi qui va prendre l'avion, c'est moi qui embarque, c'est moi qui va aller en Outre-mer, c'est moi qui va prêcher. Amen. C'est juste un exemple. Mais laisse-moi vous dire, quand on parle de vivre pour Jésus avec notre temps, avec nos talents, avec notre trésor, avec notre temple, nous avons tous besoin de faire ces quatre choses. Mais quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, ça va faire une différence dans le monde. On va voir des changements. On va faire un impact. Et que c'est merveilleux de vivre pour Jésus au lieu de vivre pour soi-même. Amen. Un jour, je vais être face à face avec Jésus et vous serez face à face avec Jésus-Christ. La Bible dit qu'on comparaisse tous devant le tribunal de Jésus-Christ pour recevoir les récompenses pour tout ce que nous avons fait étant dans notre corps physique. Tout ce que nous faisons dans la vie aujourd'hui, un jour nous allons rendre compte à Dieu pour nos vies. Et moi, je ne veux pas avoir vécu une petite vie égoïste, mais je vais être capable de dire à Jésus, Seigneur, je sais que j'ai investi, j'étais un bon économe, un bon administrateur, j'ai bien géré mon temps, j'ai bien géré mes talents, j'ai bien géré mon trésor, j'ai bien géré mon temple, et j'ai vécu pour toi, et j'ai fait ta volonté, et j'ai accompli ce que tu m'as demandé d'accomplir. Et là, Seigneur, je sais que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Combien de vous, c'est ça que vous voulez dire à Jésus? Amen. Et c'est vraiment le but de ce message aujourd'hui. C'est comme pour faire une résumé de tout ce que nous avons vu et appris à travers les 8 dernières semaines. Mais on va voir aujourd'hui le secret d'une vie transformée. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nos vies soient transformées. Il veut prendre une petite vie égoïste. Il veut transformer ça dans quelque chose qui va porter beaucoup de fruits dans son royaume. Il y a des clés, il y a des secrets pour avoir ce genre de vie. Et je vais vous demander d'aller avec moi à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On va lire juste les premiers deux versets. Verset 1 et verset 2. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que Dieu peut prendre une petite vie égoïste et transformer cette vie en quelque chose qui va porter beaucoup de fruits? Wow! Moi, j'ai vécu une petite vie égoïste dans le passé. Et je pense que nous avons tous passé par les périodes d'égoïsme. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été égoïste dans sa vie? Hein? Je pense que nous avons tous eu l'occasion, à un moment donné, de penser à soi-même au lieu de penser aux autres, de penser à soi-même au lieu de penser à Dieu et à ses projets pour nos vies. Mais ici, en Romains chapitre 12, versets 1 et 2, je vais lire ce verset dans la parole vivante que j'aime bien. C'est marqué, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. » C'est là le culte spirituel qui a un sens. On parle de comment trouver du sens dans un monde insensé. Ça, c'est le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer, tout le monde dit transformer, par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude entière, intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc, on voit ici que le plan de Dieu, c'est pour vous et moi d'être transformés. Transformés. Ça veut dire quoi être transformé? Ça veut dire changer. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va avoir l'air après être transformé, c'est pas du tout qu'est-ce qu'on avait l'air avant d'être transformé. Amen? Et là, on parle pas juste de qu'est-ce qu'on devrait avoir l'air rendu, une fois rendu au ciel, mais Dieu veut que nous soyons différents ici sur la terre. Quand on vient à Jésus-Christ, il veut nous changer. Je l'ai dit souvent, mais j'aime bien qu'est-ce qu'un pasteur que je connais aux États-Unis dit. Il dit que Dieu vous aime tel que vous êtes. Tout le monde dit, Dieu m'aime tel que je suis. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Amen? Dieu vous aime tel que vous êtes. Venez à Jésus tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous laver avant de prendre votre douche. Amen? Et il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu dans la confusion là-dessus. Ils vont dire que si tu veux venir à Jésus, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de faire ceci. Il faut arrêter de faire cela. Il faut changer telle chose. Non, il ne faut pas changer quoi que ce soit avant de venir à Jésus. La seule chose qu'il faut changer, c'est votre attitude dans le sens qu'il faut être prêt à se repentir. Il faut être prêt à tout changer. Il faut dire, Seigneur, j'allais dans le mauvais sens. Je marchais vraiment sous la puissance des ténèbres dans le mauvais sens, mais maintenant je m'arrête et je viens à toi, je tourne de bord et je suis prêt à te suivre. Je viens à toi tel que je suis avec tous mes problèmes, avec toutes mes mauvaises habitudes, avec tous les liens que j'ai. Je tourne vers toi et je viens à toi tel que je suis. Mais Dieu t'aime trop pour te laisser comme ça. Et dès que tu prends le premier pas vers Dieu, il te rencontre là et il brise les chaînes. Amen. Il te donne une délivrance, il te donne le pouvoir et il te donne aussi le vouloir de faire sa volonté. Amen. On vient à lui tel que nous sommes et c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui nous change par sa puissance, par son pouvoir. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Mais il faut être prêt à changer. Mais une fois qu'on vient à Jésus, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que tout de suite, dès qu'on appelle et on invoque le nom du Seigneur, on dit, Seigneur, je viens à toi, je suis pécheur, je confesse avec ma bouche le Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts. Dès qu'on le fait, la Bible dit qu'il nous change instantanément en son image. Nous sommes dans notre esprit nés de nouveau et nous recevons une nouvelle nature. Nous sommes, si on pourrait prendre des lunettes spirituelles et si on pourrait voir l'intérieur de chaque chrétien, chaque personne qui s'est repentie, chaque personne qui a vraiment invoqué le nom du Seigneur, on verrait à l'intérieur, dans le cœur de chaque enfant de Dieu, on verrait l'image de Jésus. Amen? Il est là. Jésus entre dans le cœur de chaque enfant de Dieu instantanément. Mais le problème, c'est que nous sommes plus qu'un esprit. Nous sommes des êtres créés dans l'image de Dieu. Dieu est un seul Dieu, mais il se manifeste en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On a une seule personne devant vous là, mais je suis Ken, l'esprit, mais je possède une âme, mon intelligence, ma façon de penser, et je vis dans un corps physique. Et quand je viens à Jésus, mon cœur est régénéré tout de suite et j'ai déjà l'image de Dieu, mais mes pensées, mon âme et mon corps ne sont pas changés tout de suite. Vous êtes d'accord? Ça, c'est un processus. Et là, la Bible dit qu'il faut être transformé. Il faut pas être moulé dans le moule de ce monde. Il faut être transformé. Il faut vivre une vie pour Jésus, au lieu de vivre une vie, petite vie égoïste, il faut être transformé. Amen. Comment pouvons-nous être transformés? Comment est-ce qu'on peut être changé? Laisse-moi vous dire, on devrait être capable de distinguer les chrétiens d'avec les non-chrétiens. Amen? On devrait voir des choses chez les chrétiens qu'on ne voit pas chez les non-croyants. Il y a des choses qu'on ne devrait pas voir chez les chrétiens qu'on voit chez les non-croyants aussi. Comment est-ce qu'on peut être transformé et comment est-ce qu'on peut avoir une vie changée? 4 petites choses aujourd'hui qui les sont simples mais profondes. Première chose qu'on voit dans ce verset, il faut se laisser motiver par la bonté de Dieu. Laissez-vous motiver par la bonté de Dieu. Et ça, c'est une chose tellement simple, n'est-ce pas? On dirait que ça ne vaut même pas la peine de mentionner « laissez-vous motiver par la bonté de Dieu ». Mais combien de vous, vous avez essayé de changer les choses dans le passé, mais sans avoir de succès? Hein, c'est juste peut-être 25% seulement. Moi, j'ai essayé dans le passé d'arrêter certaines habitudes, d'arrêter certaines choses, de changer les choses dans ma vie. Mais souvent, j'ai eu des échecs, j'ai eu des frustrations. Mais une des raisons pour laquelle j'ai eu des échecs et des frustrations, c'est parce que je n'ai pas compris la bonté de Dieu. Et, dans le passé, quand j'étais jeune, des fois, je pourrais avoir l'attitude que Dieu... il était sévère et que Dieu voulait tellement que je change des choses, mais je ne voyais pas sa bonté. Et souvent, c'était parce que j'avais peur, j'avais crainte, je ne voulais pas aller à l'enfer, je ne voulais pas subir des conséquences. C'est là où j'ai essayé de changer certaines choses. Mais ce n'était pas parce que j'ai compris la bonté de Dieu. Mais quand on voit jusqu'à quel point Dieu est bon, qu'est-ce que la Bible dit en Romains 12 ans? Je vous exhorte donc, frères, je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Parce que Dieu est tellement bon. Tout le monde dit, Dieu est bon. Dieu est bon à 100% et en tout le temps, Dieu est bon. Mais savez-vous que la plupart de la population humaine ne sait pas ou ne comprend pas ou ne croit pas que Dieu est bon. Ils pensent que c'est Dieu qui fait souffrir les gens. Il y a des personnes qui ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils pensent que toutes les guerres, toutes les maladies, toutes les souffrances sont causées par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cause les problèmes, ce n'est pas Dieu qui cause les souffrances, c'est Satan, le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Amen. N'est-ce pas bon? Dieu est bon. Dieu est un Père. Et plus tu peux voir jusqu'à quel point Dieu est bon, plus tu vas vouloir te repentir. Amen? Tu ne vas pas, tu n'auras plus le désir de marcher dans le péché une fois que tu vois la bonté de Dieu. Une fois que tu as une révélation de la splendeur, la gloire et de qu'est-ce que Dieu a planifié pour vous, vous n'allez jamais plus vouloir suivre le plan du diable pour votre vie. Dieu veut que vous soyez bénis. Dieu veut que vous soyez délivrés de mauvaises habitudes. Dieu veut que vous soyez prospères. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez bénis de A à Z, bénis au bout. Hein? Pour le dire en bon français. C'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et c'est sa bonté, la Bible dit, qui nous amène à la repentance. C'est parce qu'on voit jusqu'à quel point Dieu est bon qu'on ne veut rien savoir de la méchanceté. Le péché perd son allure dans la lumière de la bonté de Dieu. Amen? Hallelujah! Quand on voit, il y a des personnes qui vont faire des compromis. Je parle aux jeunes aujourd'hui aussi. Des personnes qui sont jeunes et ils vont entendre que le plan de Dieu, c'est de réserver, par exemple, une relation sexuelle pour le mariage. Mais ils vont dire, mais je veux avoir du plaisir, je veux avoir du fun. Pourquoi est-ce qu'ils vont quand même faire des compromis? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire des compromis et avoir des relations sexuelles avant le mariage? C'est parce qu'ils n'ont pas, eux, une révélation de la bonté de Dieu. Ils n'ont pas vu... Ils n'ont pas eu la révélation de combien ça peut être merveilleux d'avoir une relation sexuelle dans le contexte du mariage, de qu'est-ce que Dieu a planifié. C'est 100 000 fois mieux que qu'est-ce que le monde peut offrir. Amen? Mais je suis convaincu que s'ils pourraient voir la différence. C'est comme quand j'ai enseigné aux jeunes une fois sur le sujet, j'avais des Smarties dans mes mains. J'ai demandé, combien de vous aimez les Smarties? Ils ont levé la main. J'ai dit, bon, là, je peux vous offrir deux petits morceaux de bonbons. Deux bonbons, tout de suite. Si vous voulez les avoir tout de suite, je vais vous offrir ces bonbons. Et, ah oui, je veux les bonbons. J'ai dit, ou, attendez, si vous êtes prêts à attendre jusqu'à la fin de la réunion, je vais vous donner une boîte neuve qui n'a jamais été ouverte. C'est à vous de choisir. Et elle a dit, pas de problème, je vais attendre. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la bonté du pasteur Ken. Il est prêt à me donner une boîte neuve. Amen? Il est prêt à me donner une boîte neuve, pleine, pleine, pleine. Je vais avoir des bonbons pour longtemps, beaucoup de plaisir. Amen? C'est la même chose quand on parle de n'importe quel sujet dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous offre? C'est une boîte neuve versus quelques petits bonbons. Amen? Donc, une fois qu'on voit la bonté de Dieu, on n'aura plus de la misère à se repentir et de faire la volonté de Dieu. On va vouloir faire sa volonté. Amen. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est sa bonté. C'est pas la peur. C'est pas la crainte. Souvent, je pense qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes pour partager notre foi avec les autres. On veut faire peur aux gens. Il faut repentir, sinon vous allez brûler à l'enfer. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais je pense qu'on peut avoir plus de succès. On va attraper plus des mouches avec du miel qu'avec de la fumée, on peut dire. Amen. Alléluia. Numéro 2. À tous les jours, comment est-ce qu'on peut avoir une vie transformée? On se laisse motiver par la bonté de Dieu. On sait que Dieu est bon. Il veut le meilleur pour nous. Mais numéro 2, à tous les jours, consacrez votre vie à Jésus. À tous les jours, consacrez votre vie à Jésus. C'est une chose qu'il faut faire quotidiennement et même des fois, plusieurs fois par jour, il faut prendre une décision de qualité. Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Laisse-moi vous dire une chose. Votre corps physique a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et à tous les jours, votre chair va vouloir faire les choses qui ne sont pas correctes. Est-ce que j'ai raison? Combien de vous avez découvert que des fois votre chair va vouloir se fâcher avec votre épouse ou avec votre mari au lieu de dire des bonnes choses? Hein? Des fois vous allez vouloir faire les choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu parce que c'est votre chair qui est en guerre contre votre âme. Mais il faut prendre une décision. On dit, Seigneur, je me présente devant vous comme un sacrifice vivant. Mon corps entier t'appartient. Les membres de mon corps sont les instruments de la justice. Au lieu d'utiliser mes membres pour faire le mal, je prends une décision aujourd'hui. Tout le monde dit aujourd'hui. Et à tous les jours, c'est pas une chose qu'on fait une seule fois. À tous les jours, on se présente devant Dieu comme un sacrifice vivant. On dit, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. C'est ça que le verset dit en Romains 12. Il dit, je vous exhorte de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, saint et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique. C'est logique. Laisse-moi vous dire, combien de vous, des fois on a l'impression qu'on rend vraiment un grand service à Dieu, n'est-ce pas? Oh, j'ai prié 10 minutes aujourd'hui. Seigneur, tu devrais être fier de moi. Ou Seigneur, j'ai fait telle chose, tu devrais être fier de moi. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache, c'est que c'est juste normal. Hein? C'est comme j'ai dit, notre corps est comme un véhicule qui nous est prêté par le Seigneur. Si quelqu'un travaille pour une compagnie et la compagnie lui prête une auto, comme Pierre est camionneur, c'est comme normal qu'il prend le camion pour aller à Boston ou n'importe où pour travailler. Mais quand il revient du travail, il va pas aller voir son patron en disant, « Hey, je sais que tu vas bien faire fier de moi. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait avec ton camion cette semaine? J'ai pris ton camion et je l'ai utilisé pour ton travail. » Ben, c'est bien normal. Une chance, parce que sinon, tu serais viré de bord. N'est-ce pas vrai? Nos corps appartiennent à Dieu. Nos vies lui appartiennent. Notre temps, notre talent, notre trésor, notre temple lui appartient. Donc, c'est comme juste normal, c'est notre culte logique de présenter notre corps devant le Seigneur en disant, « Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un sacrifice vivant. Prends mon corps, prends mon âme, utilise mes membres pour ta gloire. Je vais travailler pour toi aujourd'hui. Je vis pour toi au lieu de vivre pour moi-même. » Et ça, c'est comme juste bien normal. Amen? Donc, on devrait commencer chaque journée comme ça et ça va changer et transformer notre vie. Qu'est-ce que Jésus a dit en Luc 9, 23? Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, tout le monde dit chaque jour, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, la religion a tordu ce verset. La religion va nous enseigner que prendre sa croix veut dire de souffrir avec une maladie. Si tu es vraiment malade, tu as une tumeur ou un cancer, quoi que ce soit, il faut prendre cette tumeur ou il faut prendre cette maladie, ou il faut prendre ce problème, il faut porter cette croix à chaque jour. Non. Jésus s'est chargé de nos maladies. Jésus a porté nos souffrances. Et qu'est-ce que Jésus a porté? Nous n'avons pas besoin de porter. Amen. Mais quand Jésus dit de porter sa croix, ça veut dire quoi? La croix, c'est une place où on meurt. Et la croix, c'est la place où on meurt à la petite vie égoïste. Amen. Et on est ressuscité à la vie nouvelle. Et à tous les jours, il faut dire non à la chair. Il faut dire non au vieil homme, parce que le vieil homme a été enterré avec Jésus, mais il essaie de se ressusciter aussi, lui. Il dit, non, il faut retourner au tombeau. On prend la croix, à chaque jour, on dit non, on meurt à qu'est-ce qu'on veut, et on fait qu'est-ce que Dieu veut. Amen? Ça, c'est la clé d'une vie transformée. On voit que Dieu est bon, et je veux plus vivre qu'est-ce que le vieil homme a vécu. Maintenant, je veux vivre cette vie nouvelle, cette vie merveilleuse, cette vie glorieuse, cette vie de bonté. C'est ça que je veux. Donc, je prends ma croix. Et la Bible dit en Hébreux chapitre 12, je pense, c'était pour la joie devant lui que Jésus a subi, il a, c'est quoi le mot exact, hein? Qu'il a, oh mais en tout cas, c'est en Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3, vous allez voir, vous pouvez, il a méprisé l'ignominie. C'est ça, il a dit, bon, toute la honte de la croix, toute la douleur de la croix, il a méprisé ces choses, il a dit, c'est pour la joie devant lui. Il savait que si je peux tout simplement souffrir un peu de temps sur la croix, je vais finir par avoir une grande famille spirituelle. Et ça vaut la peine. Amen? Et c'est l'ignominie, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on a besoin de faire. À tous les jours, on prend notre croix, on dit non à la chair, on dit oui à l'esprit. On enterre le vieil homme, encore une fois, on le crucifie si nécessaire, et on va de l'avant avec le Seigneur Jésus. Amen? Et c'est une bonne chose, excessivement positive. Combien de vous voulez vivre dans la vie de résurrection? Il n'y a pas de résurrection sans avoir un enterrement. On ne peut pas vivre dans la puissance de la résurrection à moins d'avoir crucifié la chair. Quand on crucifie la chair, la puissance de la résurrection peut prendre le relève. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Numéro 3. Prenez une décision de qualité d'être différent. Prenez une décision de qualité d'être différent. Quand je dis d'être différent, je n'ai pas dit qu'il faut être bizarroïde. Hein, des fois, les chrétiens ont l'impression que quand on devient un chrétien, oh, Dieu enlève notre cerveau. Non, il ne l'enlève pas. Il laisse le cerveau là, mais il faut le renouveler avec la parole de Dieu. Mais il faut qu'on prenne une décision. C'est ça que Dieu veut. Je veux être changé et transformé, mais c'est une décision quotidienne que je prenne. Je suis catégorique là-dessus. Je vais avoir une vie qui est différente que la vie des non-croyants. Amen. Les non-croyants, de un, ils ne croient pas. Amen. Ils sont les personnes qui doutent. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous, c'est différent chez nous. Nous sommes des croyants. Et un croyant devrait tout d'abord croire. Amen. On ne devrait pas avoir des personnes qui sont aussi rempli de doutes que le monde. Dans l'Église, dans la famille de Dieu, on devrait être une famille des croyants, des personnes qui sont remplies de foi et de confiance et qui ont de l'assurance que Dieu va faire qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il y a un verset en Malachie, chapitre 3, verset 16 à 18, qui est vraiment touchant. Ça m'a vraiment frappé il y a quelques ans quand j'ai découvert ce verset. Je l'avais lu plusieurs fois, mais il y a une journée, il y a quelques ans, ça m'a tellement frappé. Je veux le lire pour vous. En Malachie 3, 16, c'est dans vos notes. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, est-ce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel ce matin? C'est-à-dire que vous avez de la révérence pour lui. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui craignaient l'Éternel, ils faisaient quoi? Ils se parlaient. Ils disaient les choses. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Je veux que vous voyez qu'est-ce que Dieu dit. Dieu écoutait qu'est-ce que le peuple de Dieu disait, les choses qui sortaient de la bouche de son peuple. Et Dieu a écrit un livre. Il a pris ça en note. Je vais écouter qu'est-ce que mon peuple dit, et ceux qui me craignent, et ceux qui disent la bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui disaient, qu'est-ce que ça donne de servir Dieu? Les non-croyants vont mieux que nous, les croyants. Si tu lis le contexte de ce verset. Ceux qui ne servent pas Dieu sont plus bénis que nous. Ils ont plus d'argent, et tout va bien pour eux autres, mais nous qui servons le Seigneur, ça va mal. Mais il y avait une restante de peuple. Il y avait un groupe de personnes qui craignaient vraiment Dieu, qui croyaient vraiment en Dieu et qui voulaient être différents. Ils ont dit, non, on ne parle pas de même, on va parler entre nous des bonnes choses. Et ils ont commencé à parler selon la volonté de Dieu. Et Dieu a écouté qu'est-ce qu'ils ont dit. Et il dit, hey, voici un peuple qui parle qu'est-ce qu'il faut et qui dit qu'est-ce qu'il faut dire. Ce sont un peuple rempli de foi. Laisse-moi vous poser la question. Si Dieu, et quand Dieu écoute qu'est-ce qui est dit dans votre maison et entre nous, qu'est-ce qu'il va écrire dans son livre? Hein? Aimeriez-vous lire le livre de qu'est-ce que Dieu a écrit à propos de vos paroles, de qu'est-ce que vous dites à votre maison? Sinon, c'est le bon moment de changer. Amen? Moi, je veux que Dieu écrive un bon livre à mon égard et je veux qu'il écrive des choses qui prouvent que nous croyons qu'est-ce qu'il dit. Regardons. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Mon Dieu, la différence. La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, vois-tu, Dieu veut que nous démontrions une différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Est-ce qu'il y a une différence dans votre vie, dans notre vie? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais je veux que quand les gens voient les membres de la vie comblée, qu'ils voient une différence. Qu'est-ce qu'ils sont supposés de voir? Ils sont supposés de voir Jésus en nous. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Prenez une décision de qualité d'être différent. Je ne vais pas parler comme le monde. Je ne vais pas penser comme le monde. Je ne vais pas agir comme le monde. Je ne vais pas faire les choses comme le monde fait. Je vais faire les choses comme Dieu le fait. Et le monde va voir une différence entre moi et ceux qui ne craignent pas Dieu. Et cette différence va les amener à Jésus. Numéro 4, pour finir là. Hallelujah! Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. C'est ça qu'on a vu. La parole de Dieu a dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Tout le monde dit une nouvelle orientation. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc Dieu veut qu'on soit différent, mais c'est quoi la clé? La clé, c'est de reconnaître la bonté de Dieu, La clé, c'est de prendre une décision chaque jour, de se présenter devant lui en disant, Seigneur, me voici, ma vie t'appartient. La clé aussi, c'est d'être résolu et catégorique que ma vie va être différente de la vie des non-croyants. Et la clé aussi, c'est de donner à vos pensées une nouvelle orientation. De ne plus penser comme vous pensiez autrefois. Si vous allez vivre pour Jésus avec votre temps, avec vos talents, avec votre trésor et avec votre temple, il faut penser d'une autre manière. Encore, quand vous êtes venu à Jésus, votre vie intérieure, votre cœur intérieur a été changé instantanément à l'image de Dieu. Amen. Mais votre corps restait pareil. Vous avez une lutte maintenant entre la chair et l'esprit. C'est quoi qui va faire la différence? C'est quoi qui va donner la victoire? C'est la troisième partie de votre être. C'est votre âme, votre intelligence. Si vos pensées sont en accord avec le cœur, vous allez faire la volonté de Dieu. Mais si vos pensées sont en accord avec la chair, avec le cœur, vous allez continuer à mener une petite vie égoïste. Amen? Au lieu d'avoir une grande vie qui porte beaucoup de fruits, il faut penser comme Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense à propos du temps? Hein? Qu'est-ce que Dieu pense? Il faut que je pense comme Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense à propos de mes talents? Qu'est-ce qu'il pense à propos de mes trésors? À propos de mon temps? Qu'est-ce qu'il pense? Et il faut que j'accepte et que je reçoive ses pensées afin d'avoir ma vie changée. Le dernier verset qu'on va lire ce matin, c'est en Jacques, chapitre 1, verset 21. Et puis, on va mettre cette parole en pratique. Jacques, chapitre 1, verset 21 dit, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité. » N'oubliez pas que cette parole est adressée aux chrétiens. Et il dit aux chrétiens, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. » Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'avoir toujours et quand même des choses de méchanceté en lui? Oui, c'est possible. Pas dans son esprit, mais dans sa chair et des fois dans ses pensées. Mais qu'est-ce qu'on est supposé de faire quand on se débarrasse de ces choses? On est supposé avec humilité pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir. C'est quoi qui a le pouvoir? La parole a le pouvoir de vous sauver. Et dans quelques versions, c'est marqué, la parole a le pouvoir de sauver vos âmes. Votre esprit est déjà sauvé, mais c'est votre âme, votre intelligence, votre façon de penser qui a besoin d'être sauvée. Et c'est quoi qui va sauver votre pensée? C'est quoi qui va vous donner une nouvelle orientation? C'est la parole de Dieu. On va continuer ce verset, c'est tellement fort. Regardons en Jacques chapitre 1. Recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-le en acte. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. Soulignez cela. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Tout le monde dit ses actes. Cet homme sera heureux. Tout le monde dit cet homme sera heureux. Dans tout ce qu'il fait. Voulez-vous être heureux dans tout ce que vous faites? Vraiment, levez vos mains si vous voulez être heureux. Qui ne veut pas être heureux dans la vie? Il y a une seule façon d'être heureux dans la vie, c'est de recevoir avec humilité la parole de Dieu qui peut sauver nos âmes, qui peut changer notre façon de penser. Et on reçoit la parole dans le but d'obéir à la parole et de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire que depuis 8 semaines, nous avons parlé de l'importance de bien gérer notre temps, nos talents, notre trésor et notre temple. Nous avons écouté et entendu la parole. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, c'est le temps de mettre cette parole en pratique. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu utilises ton temps pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu utilises tes talents pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu utilises ton trésor pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu utilises ton temps pour la gloire de Dieu? Si oui, Et si continuellement vous êtes dans la parole et la parole change votre façon de penser, vous allez être transformé. Et au lieu d'avoir une petite vie égoïste, vous allez avoir une grande vie qui porte beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut aller chercher Tania, elle va venir jouer. Et je pensais que ce serait une bonne chose aujourd'hui de mettre cette parole en pratique. La Bible dit, je vous exhorte à vous présenter à Dieu comme des sacrifices vivants. C'est le temps maintenant, même ce matin, j'aimerais qu'on mette cette parole en pratique. On va se présenter devant Dieu, on va dire, Seigneur, me voici, tout mon être entier. Mon âme, mon esprit, mon corps, mon temps, mes talents, mon trésor, mon temple, tout t'appartient, je ne suis que le gérant. On va se présenter à lui et on va prendre la Sainte Cène, la communion aujourd'hui. Et ça représente une alliance, l'alliance que nous avons avec Dieu. Une alliance qui dit que tout ce que je suis et tout ce que j'ai appartient à Dieu, mais tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a m'appartient. Voyez-vous, c'est réciproque, n'est-ce pas merveilleux? Je viens à Jésus avec toutes mes choses, mes biens, ma vie, et je le donne à Jésus. Et il prend les petites choses que je lui donne, et en retour, il me donne toute sa vie, tous ses biens. Tous ses biens deviennent mes biens. Amen. Le pauvre que j'étais est maintenant transformé en riche. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du roi. Je ne manque de rien. C'est un bon échange. Et c'est une chose pour laquelle on devrait être reconnaissant. Et ce matin, je vous lance le défi. Prenez le temps ce matin, quand vous prenez le pain et le jus, de réfléchir. Posez-vous la question, sondez votre cœur et permettez au Saint-Esprit de sonder votre cœur. Posez-vous la question, est-ce que je vis vraiment pour Jésus à 100%, avec tout mon temps, avec tous mes talents, avec tout mon temple, avec tous mes trésors? Posez-vous la question. Laissez le Seigneur vous montrer les choses. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit à 100% engagé à lui. Et c'est là qu'on va porter beaucoup de fruits. Donc, si les hommes peuvent venir et distribuer le pain et le jus, juste avant qu'ils distribuent tout ça, j'aimerais juste prendre cette occasion, juste avant qu'ils distribuent le pain, juste demander à tout le monde de fermer les yeux. Peut-être vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas à 100% sûr et certain que votre vie appartient à Jésus. Vous croyez en lui, vous croyez qu'il est mort à votre place sur la croix et qu'il est ressuscité des morts. Mais vous avez besoin d'avoir une assurance que vous avez une place réservée pour vous au ciel. La bonne nouvelle, c'est que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité, que tu seras sauvé. J'aimerais juste savoir s'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, oui, je veux donner ma vie à Jésus ce matin, je ne l'ai pas encore fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, oui, à tous les dimanches matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main haut pour que je puisse la voir? OK, il y a une personne, gloire à Dieu. Il y a une personne, il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à cette personne qui a levé la main de faire cette prière avec moi, mais nous allons tous le faire ensemble. Je ne veux pas embarrasser qui que ce soit. Mais c'est merveilleux parce que la Bible dit que tous les anges du ciel se réjouissent si une personne se répand. Donc ce matin, il y a une personne qui va donner sa vie à Jésus pour vrai. Et nous allons tous faire cette prière. Et la personne qui a levé la main va voir un miracle déclenché dans sa vie. Cette personne va devenir une nouvelle création en Jésus. Donc prions, et surtout toi qui as levé la main, on va prier tous ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je viens à toi par la foi et je crois de tout mon cœur que je suis maintenant ton enfant. Mes péchés sont pardonnés. Tu m'acceptes tel que je suis. À partir d'aujourd'hui, je tourne mon dos au péché et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Je suis ton enfant, tu es mon père et je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette nouvelle création. Et maintenant, on va distribuer les éléments. Je vous demande...